Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Fluxfort au Festival Entrevue à Belfort. Bonjour à tous. Alors, il est samedi, donc dernier jour pour nous d'émission. Ce soir, nous découvrirons le palmarès. Et je suis donc en compagnie de Cécile Becker. Bonjour Cécile.
Bonjour Caroline.
D'Olivier
Leclerc. On m'entend ?
Ah oui. Pardon. À la réalisation. Et de notre invité Antoine Boutet. Bonjour Antoine Boutet.
Bonjour.
Alors vous êtes réalisateur, on va parler de votre film, mais juste avant, Cécile, qu'avez-vous vu hier soir ?
Alors on a eu la chance de voir en avant-première le film de Sophie Le Tourneur qui s'appelle Gabi Babydoll, dans lequel jouent Lolita Chama et Benjamin Biolay. Alors moi j'ai adoré ce film, je crois qu'Olivier derrière la mixette l'a pas mal aimé aussi en t'envoyant d'ailleurs des textos comme quoi le film était loufoque. Loufoque, oui, mais en fait c'est un conte qui pourrait s'adresser aux enfants comme aux grands enfants qui dorment en chacun de nous. C'est l'histoire de Gabi qui a un problème, une névrose. Il lui est impossible de dormir seul. Alors son amoureux commence à un peu être énervé en lui disant qu'elle est avec lui simplement pour ne pas être seule. Donc il la laisse dans une maison dans la campagne pour essayer d'apprendre à vivre seule et lui prouver son amour. Il se trouve qu'elle fait la rencontre d'un ermite qui est interprété par Benjamin Biolay. Il s'appelle Nico. Il est un peu sale. Et en fait, ils se prennent d'amitié, ils commencent à faire des balades ensemble et Nico lui apprend finalement à vivre sa vie toute seule. Et là, se termine ce conte de fées comme on en connaît depuis qu'on est petit. Et c'est super parce qu'en même temps, il y a quelque chose de très enfantin. Mais en même temps, je trouve que ce film raconte quelque chose de ma génération, en tout cas, enfin, j'ai 27 ans. Et il y a vraiment une image de femme qui est hyper libérée et qu'on voit rarement dans le cinéma français. C'est-à-dire que là, on voit Gabi faire pipi dans la nature devant son possible amant. C'est une vision de la femme qu'on voit très rarement dans le cinéma français. Et c'est une bouffée d'air frais. Vraiment, ça fait du bien de voir ça. Et c'est très agréable de pouvoir regarder un film tout en souriant. Et agréable aussi de voir un film qui se termine bien. Voilà.
Merci Cécile pour ce retour. Donc là, nous allons parler de Sud au Nord déplacé. Donc c'est votre film, Antoine Boutet. C'est votre troisième documentaire et votre deuxième portant sur la Chine. Alors Sud au Nord déplacé, c'est la traduction littérale de Nanchui Pays Dao. J'imagine que je prononce mal, bien évidemment. C'est le plus gros projet de transfert d'eau au monde qui se déploie actuellement du sud au nord de la Chine. C'est un projet colossal et pharaonique, comme seule la Chine peut-être peut le mettre en œuvre, et qui reposerait a priori sur une phrase du président Mao qui aurait dit approximativement « Peut-on emprunter un peu d'eau au sud qui en a davantage ?» Donc ça pour pouvoir ramener de l'eau dans un nord qui est plus desséché. Donc votre documentaire va traverser les espaces en chantier, va à la rencontre des territoires dévastés, reconfigurés, remodelés par l'homme et la toute-puissance d'un pouvoir politique. Et vous partez aussi à la rencontre des différents protagonistes du projet, que ce soit les victimes des catastrophes naturelles comme des spécialistes. Alors comment est-ce que vous avez eu vent de ce projet tout d'abord ?
J'ai entendu parler de ce projet lors du film précédent que j'ai fait en Chine. C'était en 2006, si je me souviens bien, 2005-2006. Et je travaillais à ce moment-là sur... le film que je faisais était sur le barrage des Trois Gorges, donc qui était déjà, à ce moment-là, le plus gros barrage, le plus gros projet de barrage au monde. Et donc je travaillais sur l'impact de ce barrage en fait sur le territoire, sur le paysage et sur les démantèlements des villes. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler de ce projet Nanchui Beidiao qui est en fait qui est en lien avec ce barrage aussi. Et je me suis dit que ça allait être une manière de prolonger mon expérience chinoise et de pouvoir surtout aller un peu plus loin, c'est-à-dire de passer d'un travail sur une région particulière à un film à l'échelle du pays. Et donc c'était, voilà, c'était pour moi la possibilité d'aller plus loin et de prolonger un petit peu tout ça.
Donc pour vous, le travail, enfin votre travail de cinéma, c'est aussi un moyen de découvrir des territoires ?
C'est avant tout, oui. Avant tout, oui, il faut qu'il y ait un plaisir. En tout cas, c'est comme ça, moi, que ça me porte. En tout cas, qu'au départ, il y ait cette envie de se dire, ben là, voilà, ça va être l'occasion d'une découverte, de quelque chose que je ne connais pas. Il y a une mise en danger aussi, parce que c'est jamais la même chose. Et en même temps, sans cette découverte, sans cette excitation d'aller dans des territoires que je ne connais pas, il n'y a pas grand intérêt.
Alors, vous dites avoir, justement dans un entretien, vous évoquez ce souhait de vous installer dans un environnement étranger et donc de fait déstabilisant. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous recherchez dans le cinéma des autres personnes ? Ma question n'était pas super bien formulée. Je vais peut-être la refaire, ouais.
Non, mais je l'ai compris.
Oui,
hein.
Ok.
Je l'ai compris. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse quand parfois, essentiellement dans le documentaire en fait, hein, quand on voit qu'il y a des choses qui dérapent d'une certaine manière. Et que malgré la maîtrise du sujet, malgré ce qu'on peut voir, d'un coup il y a quelque chose qui de l'ordre quelque chose de l'imprévu qui arrive. Et donc ça, c'est, on peut le sentir un petit peu dans mon film de temps en temps. On est sur un sujet, enfin moi en tout cas là j'étais sur ce sujet, mais j'étais ouvert à toute à tout ce qui pouvait arriver, même à côté, les à côté du sujet, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Quand il y a des éléments qui viennent perturber un petit peu le travail.
Donc alors, comment avez-vous procédé ? Ça veut dire que vous avez écrit aussi le film au cours de votre voyage ?
Non, je l'ai pas. Enfin, je l'ai écrit. Il y a évidemment des étapes de c'est parti d'une écriture assez succincte, c'est-à-dire qu'il y a ce projet. J'avais dans l'idée de suivre le chantier, les travaux. Il y a à peu près 4500 km de chantier, en tout cas, prévu. Et ça, c'était ma trame. Et puis après, voir un petit peu ce qu'on découvre au fur et à mesure, sur place. Et donc, l'écriture s'est faite d'une certaine manière, au fur et à mesure des repérages et au fur et à mesure des tournages. Il y en a eu 5, je crois. Ça s'est étalé sur 5 ans. Donc voilà, le film s'est construit au fur et à mesure. Mais il n'y avait pas, je n'y allais jamais avec une idée vraiment préétablie. Avec, c'est un documentaire. Donc tout se fait aussi en fonction de ce que je découvre sur place. Même si, voilà, je fais confiance à ces moments de tournage ou à ces moments de repérage.
Cécile Becker.
Alors cette démarche qui est assez intuitive finalement, vous êtes plasticien à côté de votre travail de réalisateur et j'ai cru comprendre que c'est aussi cette intuition, vous la développiez aussi dans votre travail de plasticien. Est-ce que vous avez besoin d'être constamment en construction ?
J'ai besoin de, oui, de sa manière d'être en construction et que les choses se construisent au fur et à mesure. Donc, avoir là, sur ce film-là, j'avais quand même un maximum d'informations avant de commencer. J'ai rencontré pas mal de gens, j'avais énormément d'informations, je maîtrisais de plus en plus, d'un point de vue environnemental, scientifique, j'avais des données. Et en même temps, ce que je cherchais sur le terrain, c'était être sur le terrain avec ces informations en tête, mais les oublier une fois que je suis sur le terrain. C'est-à-dire qu'elles me nourrissent sans avoir à y réfléchir. J'ai tous ces éléments en place, mais je ne cherche pas à l'expliquer. Simplement, je suis sur le terrain, je fais une sorte d'étalé lieu avec ça en tête, mais voilà, je m'intéresse à tout ce que je vois concrètement. Je fais confiance à l'image parce que c'était vraiment le voir ce qu'on peut découvrir sans forcément passer par l'explication, sans forcément avoir des gens qui nous racontent ce que c'est que le projet, même s'il y en a un dans le film. Mais voilà, voir comment on peut, par l'image avant tout, raconter cette transformation, en fait.
Je trouve que c'est prendre beaucoup de risques quand même. Est-ce qu'imaginer que vous seriez tombé devant, je sais pas, enfin faire confiance à l'image, c'est presque lui donner beaucoup beaucoup d'importance, je sais pas.
Ben c'est lui donner beaucoup d'importance et en même temps je suis moi étranger, j'arrive dans un pays, je parle pas la langue, j'ai entendu parler de ce projet, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que voilà, comment est-ce que quelles sont les traces qui fait qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'il y en a? Parce qu'en plus c'est un projet qui est quand même un projet quasiment invisible, souterrain, qui sur une grande partie après va être enfoui. Donc dans quelques années on verra plus grand chose. Et voilà, comment est-ce qu'on peut raconter une histoire avec ça? Et je pense que c'est pas le résultat, on le voit dans le film, c'est pas un projet spécifique sur enfin, c'est pas un film sur un projet hydraulique. Et scientifiquement, on n'apprend pas grand-chose, mais ouais, on est plus dans l'ordre d'une impression globale, d'une transformation globale, et on passe dans le film du paysage transformé, un paysage politique transformé, à une transformation plus sociale en fait, problèmes sociaux.
Oui, comme vous le dites, en fait, ce que ça raconte aussi beaucoup ce film, c'est vraiment la surdité d'un pouvoir politique. Enfin, c'est vraiment une cartographie de la Chine actuelle, la surdité du gouvernement face au territoire où tout passerait toujours par une tentative de collectivisation, une négation des spécificités autant individuelles des territoires que des populations qui y habitent.
Oui, ben, il y a toujours ce poids du pouvoir qui est là. Et qui est le poids de cette décision de faire ce projet et qui a été fait sans réelle concertation. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir même à travers les slogans qui se déploient dans les sites et cette présence affichée du pouvoir sur place. C'est ce rapport-là qui m'intéresse entre cette affirmation d'un pouvoir à travers un projet, parce que c'est quand même aussi un projet pour marquer, c'est un grand projet qui marque une politique, et c'est aussi une manière de laisser une trace pour un pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pays, qu'on retrouve depuis longtemps. Et en même temps, voilà, comment est-ce que face à ça, face à cette espèce de machine étatique, comment les gens s'en sortent, comment les gens réagissent et qu'est-ce qu'ils subissent?
Et vous, en tant que réalisateur étranger, ne maîtrisant pas la langue, quelles ont pu être vos difficultés lors des tournages?
La difficulté qui en même temps est quelque chose qui m'intéressait, c'était justement de ne pas passer par le langage dans un premier temps, de ne pas passer par la parole, de ne pas passer par des rencontres, et vraiment d'arriver à, et ça je pense que c'est un avantage d'une certaine manière, c'est que on est obligé vraiment de regarder et de comprendre, ou en tout cas d'essayer de comprendre un maximum à travers ce qu'on voit. Et à partir de là on peut se tromper, évidemment c'est complètement intuitif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais voilà, il y a des éléments, et ces éléments-là, ils permettent d'être concentré comme... Je pense que je ne pourrais pas être concentré comme ça ici, en France, par exemple. Parce que je connais trop... j'ai trop de repères. Au même titre que les Chinois avec qui j'étais ne lisent plus les slogans qui sont affichés dans le paysage. Pour eux, c'est comme des publicités qu'on a ici. Nous, on ne les voit pas. Mais eux, c'est pareil. Donc, c'est moi qui leur demandais, mais traduisez-moi ça, parce que voilà, j'avais l'impression souvent que c'était intéressant ou c'était en rapport, et effectivement, ça l'était. Donc, on finit par comprendre pas mal de choses, et même à travers des rencontres qu'on fait sur le bord de la route ou avec des gens, même si je ne comprenais pas précisément ce qu'ils se disaient, au bout d'un moment, en fonction de quelques mots, de l'intonation, de l'ambiance générale, j'arrivais à comprendre si c'était important ou pas, et donc si je filmais ou pas. Et en général, je me trompais rarement. Donc même si je n'avais pas précisément accès à ce qui se disait, voilà, il y a des choses qu'on arrive à percevoir. Et donc ça demande pas mal de concentration, mais voilà, ça c'est un élément qui est intéressant. Mais évidemment, j'étais aussi la plupart du temps avec un assistant qui était chinois ou qui parlait chinois et qui me permettait d'avoir des retours. Hein. Donc,
Vous nous disiez que vous aviez travaillé, enfin que vous aviez vraiment documenté votre film en amont, que vous aviez aussi rencontré des personnes. Comment avez-vous aussi, au fil du tournage, pu rencontrer des personnes ? Parce que par exemple, il y a Ran Yunfan, qui est un écrivain intellectuel et blogueur qui est assigné à résidence. Est-ce que c'est facile de rentrer en contact avec quelqu'un comme ça et de communiquer avec lui ?
Et tout dépend de la... En soi, c'est pas facile, ça prend du temps. Ça s'est fait après plusieurs tournages. C'est une sorte de connexion, c'est tout. C'est vraiment trouver la bonne personne qui va faire le relais. Et en fait, à ce moment-là, je travaillais avec une assistante, une collaboratrice qui était très impliquée dans tout le mouvement de la société civile qui en Chine était très connue. Forcément ça a permis d'ouvrir des portes et de rencontrer ces gens-là, et qui, parce qu'ils avaient confiance en elle, ont accepté de me voir. Mais c'est aussi parce que il a fallu attendre un certain temps pour que moi-même je sois crédible vis-à-vis de ces gens-là. C'est-à-dire que, et c'est normal, y aller comme ça et leur dire je vais vous rencontrer, que ce soit des ingénieurs ou que ce soit des militants, voilà, ils savent pas qui on est. Eux, ils prennent un risque d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait quelque chose en retour. Et là, ce qu'on pouvait leur apporter au fur et à mesure, c'était un peu une expertise du terrain. C'est-à-dire qu'on avait fait plusieurs fois l'intégralité des différents chantiers, des différentes routes qui allaient être faites. Et donc on pouvait discuter de ce qu'on avait vu sur le terrain. On pouvait parler de notre expérience. Et ce sont des choses qui les intéressaient. Donc voilà, il y avait un échange qui était possible. Et donc forcément, eux, ça les intéressait aussi.
Ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est que donc vous racontez la construction du projet, le fait que vous soyez déjà passé par une appréhension des paysages pour petit à petit aussi entrer en contact avec des personnes. Et le film, il raconte aussi ça. Ça, c'est quelque chose que vous pressentiez au moment du montage vraiment du film, ou qui s'est fait intuitivement ?
Ça s'est fait... Donc au moment du montage, la seule chose, avant d'attaquer le montage, que je savais, et c'était bien peu, c'était que le film se terminerait sur le Tibet, sur la partie du Tibet, parce que ce qui m'intéressait là, c'est que par rapport au reste du projet qui est déjà commencé voire terminé, on avait là au Tibet une route qui va être tracée, qui, si elle commence, parce qu'elle c'est toujours à l'étude, elle commencerait en 2015 et elle se terminerait en 2050. Donc voilà, ça m'intéressait dans la construction du film, en tout cas, que on finisse sur ce territoire-là, qui en plus est évidemment très différent de ce qu'on a vu auparavant, mais qui en plus, voilà, qu'on puisse, en le voyant tel qu'il est aujourd'hui, imaginer la transformation possible si un jour c'est fait. Donc ça c'était la chose que je savais. Après la construction, non, ça s'est fait pareil. Enfin, le montage se fait aussi d'une manière assez intuitive. Et finalement, voilà, ça raconte aussi mon trajet au fur et à mesure durant ces différentes années. Et je voulais aussi commencer que tout ne soit pas expliqué dès le départ. Je voulais vraiment qu'il y ait cette distance au début, et puis cette peut-être incompréhension aussi, qu'on prenne le temps de rentrer dans le film et que ça se construise au fur et à mesure.
Cécile Baker.
C'est drôle parce qu'en vous entendant parler de la fin du film, du Tibet, on a l'impression que vous vous laissez une porte ouverte, vous aussi, pour pourquoi pas entamer autre chose. C'est l'impression que j'ai. Hein.
Je vais y réfléchir. Entamer autre chose peut-être. Sur place, je ne sais pas, on verra. Mais oui, c'est ouvert. Et le film, je pense que le film, il est quand même ouvert. Et ce qui peut être un peu déstabilisant d'ailleurs, hein, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Bon, voilà, je ne voulais pas faire un film contre ce projet. C'était pas mon propos. Il s'agissait pas de dire si oui ou non c'était bien, mais d'essayer d'apporter un maximum d'éléments, que ce soit lié à la problématique de l'eau, lié à la problématique de l'environnement, lié à la problématique de l'impossibilité d'échanger pour les personnes autour de ce projet avec les instances politiques, mais que tout ça soit réuni, que ça fasse un espèce de d'ensemble, et que cet ensemble donne peut-être un portrait, en tout cas, d'une Chine aujourd'hui. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de... Disons qu'il n'y a pas... Voilà, je ne dirige pas plus le regard des spectateurs.
Alors, vous nous racontiez que le film se termine sur le Tibet. En revanche, le film, il s'ouvre sur un texte dont on s'imagine qu'il s'agit d'une histoire chinoise et qui décrit des territoires où serpente le fleuve jaune. Alors, qu'est-ce que c'est, ce texte ?
C'est un texte, ce serait le premier manuel de géographie chinois et peut-être même au monde, donc qui est très, très ancien et qui s'appelle le livre des
montagnes.
Des montagnes et des fleuves, ou des montagnes et des eaux, je ne sais plus, et qui répertorie toutes les montagnes et tous les fleuves chinois. Et donc c'est très beau déjà. Et très intéressant dans la construction dans l'écriture même, et c'est associé à chaque fois avec des animaux ou des plantes qu'on y trouve et qui sont quand on lit aujourd'hui complètement fantastiques, avec des serpents chantants et des oiseaux volants et des poissons volants. Et donc ça m'intéressait, je l'ai découvert pas au départ du film, mais à un moment donné je suis tombé là-dessus et je l'ai lu, et j'aimais bien cette idée de le mettre en introduction du film pour montrer d'une part l'importance qu'a la montagne, tout ce qui est montagne et fleuve dans la mythologie chinoise, on le sait, mais c'est présent et ça l'est encore aujourd'hui, et en même temps voilà, c'était une manière aussi d'introduire ce qu'on allait voir, qui est là purement documentaire, hein, à travers ce que j'allais montrer, mais en même temps de proposer aussi aux spectateurs de le voir autrement, c'est-à-dire de faire attention aussi à ce qu'ils allaient voir, et est-ce qu'ils allaient vraiment voir ça, est-ce qu'ils allaient vraiment voir quand on voit un paysage, quand on voit quelque chose, est-ce que c'est vraiment ça, parce que c'est, il y a souvent un doute, et moi-même j'étais souvent assez on a l'impression de voir quelque chose et puis c'est autre chose, par exemple. Il y a des moments, on peut voir. Enfin, tout est très bizarre. Ça peut être le désert, mais en fait, c'est pas le désert. C'est une carrière à cet endroit-là où il y a des choses qui sont tellement transformées que on a toujours ce doute. Et moi, je l'avais sur place et. Et je voulais qu'il persiste. Et je pense que de temps en temps, on est un petit peu perdu exprès dans le film, ne sachant pas trop ni géographiquement où on se trouve, ni à commencer par les premiers plans de désert, ni à quoi ça correspond.
Ben, c'est vrai que le premier plan suivant ce texte étant un paysage totalement désertique avec un arbre rompu et desséché au milieu, il y a de fait un contraste.
Oui, oui, tout à fait. Ouais.
Alors. Vous disiez que vous n'aviez pas voulu faire un film contre, donc vous disiez également c'est vrai, ce film est un état des lieux. Ça peut évoquer un documentaire qui a été fait il y a quelques années par Nino Kirtadze, Un dragon dans les eaux pures du Caucase, et qui racontait la construction d'un oléoduc qui relie l'Azerbaïdjan à la Turquie via la Géorgie. Est-ce qu'il y a des travaux comme ça de documentaristes ou de réalisateurs qui ont pu vous inspirer pour ce film ?
Ben je l'avais vu ce film, je m'en souviens. J'avais pas trop de... Il y a un film qui m'a intéressé. Et auquel j'ai pensé plusieurs fois par rapport à ce que j'étais en train de faire, C'est le film de Peter Mettler, Gambling Gods and LSD, qui est en fait un film assez hallucinant sur et qui se passe dans plusieurs pays autour d'états de transe. Et pour ça, il va passer, d'après ce que je me souviens, du Canada à la France, à l'Inde. Donc il y a une espèce de voyage là, planétaire, pour trouver des personnes qui vont représenter des différents états. Et j'aimais assez ce travail, la construction à cette échelle-là. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé souvent de penser à lui. Et à ce film, ça m'a aidé. Et d'autres films, des petits films, et là je me souviens même plus du nom, mais qui restent, voilà, on voit des fois des choses, on se souvient plus qui l'a fait, on se souvient même plus du titre, mais il y a une image qui reste. Et là, c'était, j'aime beaucoup en fait dans le documentaire quand on est dans des contrées lointaines et en même temps c'est pas exotique, c'est pas, on se dit pas tiens mais oui ok d'accord mais ça se passe là-bas, c'est normal. Et quand d'un coup on se sent très proche des gens avec qui qu'on voit à l'écran et que on en oublie le pays, on en oublie la situation. Et ça c'est quelque chose dans des petits faits, des petites rencontres que j'aime et que j'essaye de privilégier quand elles ont lieu et qu'on trouve de temps en temps dans le film et qui permet de sentir proche de ces gens en fait.
Mais oui, pour revenir à Sud au Nord déplacé, justement, c'est vrai que à travers les différentes personnes que vous rencontrez, on sent parfois une vraie proximité avec des confidences. Est-ce que vous avez été par la suite encore en contact avec ces personnes ou est-ce que vous êtes encore en contact?
Non, pour l'instant je suis plus en contact parce que déjà je dois passer par des intermédiaires pour les revoir. Après, certaines personnes on a mis très longtemps à les trouver, sont pas des personnes, certains en tout cas essayent d'être disons
discret.
Assez de problèmes avec les autorités ou la police ou autre pour que voilà, ça prenne du temps, on sait jamais où ils sont. Et voilà, c'est donc je suis pas en lien. Après, je pense qu'ils ont vu le film parce que j'ai réussi à leur faire passer une copie. Mais non, aujourd'hui, je n'ai pas de contact avec eux.
Mais c'est vrai aussi que ce que dit ce film, c'est au final l'absence d'une société civile qui serait capable de s'opposer réellement à ce projet.
Ben c'est un petit peu le constat un petit peu comment dire, disons que on est aujourd'hui dans une sans vouloir généraliser, j'ai eu l'impression au fur et à mesure que c'était de plus en plus compliqué pour eux. On le sait. Après, je pense que il y a des périodes, il y a des cycles. Et en ce moment, c'est quand même assez complexe et assez compliqué. Et ils ont beaucoup de mal, cette société civile. Ils ont beaucoup de mal à se faire entendre. Et c'est même pas une histoire de révolte hein, ou d'opposition, mais simplement le fait même de pouvoir exprimer une voix, un sentiment. Même en étant constructif, hein, c'est la plupart me disaient, mais on cherche pas à être contre. On veut simplement proposer des alternatives. On voudrait pouvoir participer de cette construction, participer de cette amélioration du cadre de vie, parce qu'il y a beaucoup de boulot. C'est très compliqué et l'État le reconnaît. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Mais voilà, il y a un problème il y a un problème de prise de parole et il y a une grande inquiétude de la part des autorités de laisser la parole aux gens parce que au niveau de la population c'est bouillonnant et tout peut partir très vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et certains en parlent dans le film, avec Internet, voilà, ça circule énormément. Il y a un besoin de discussion, il y a un besoin de débat de la part des gens qui est tel que tout ça est très très contrôlé de plus en plus. Et donc les gens qui ont un certain aura et comme les personnes que j'ai rencontrées sont quand même extrêmement surveillées parce que leurs paroles portent. Et certaines aujourd'hui pensent de plus en plus à quitter le pays parce que ça devient trop compliqué. Donc c'est un peu un constat d'échec, quoi.
Alors, Sud ou Nord déplacé fait partie donc de la compétition des longs métrages. C'est la première fois pour vous que vous venez à Belfort présenter un film ?
Non, j'avais eu la chance de venir en 2009, 2010, je ne me souviens plus, avec mon film précédent qui s'appelait Le Plein Pays, qui était un moyen métrage, un film d'une heure, voilà, qui était présenté ici. Et en compétition. Et puis,
il y a eu un film en cours aussi, non ?
C'était pas le film en cours, donc c'était l'année dernière, c'était le film que vous avez vu, c'était celui-là, en fait, où on a eu la chance, l'année dernière exactement, de remporter l'aide à la post-production, oui, oui. Voilà, le prix à la post-production, et ce qui nous a permis de finir le film, très concrètement, voilà, parce qu'on n'avait plus, un rond.
Est-ce que ça permet plus, justement, que de finir le film ? De fait, il est reprogrammé ici,
de fait,
est-ce que ça permet aussi d'être plus visible auprès d'autres programmateurs ?
Ça, on verra. Parce que là, c'est cette semaine, on verra. Je peux pas savoir. Je pense que oui, c'est de toute façon intéressant d'avoir un film ici en compétition. J'ai pu le constater sur mon film précédent. Mais c'est vrai que ça a vraiment permis de le terminer, ça c'était bien, et de le terminer dans de très bonnes conditions, et c'est-à-dire de vraiment passer à une étape supérieure. Et le film qui était qu'on avait fait disons d'une manière très 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 rigoureuse, mais avec les moyens du bord, là d'un coup on a pu le finaliser en post-production avec dans des structures qu'on n'aurait jamais pu se payer. Et ça, je pense que ça a beaucoup aidé à donner de l'ampleur aux images et aux sons.
Très bien, mais merci beaucoup Antoine Boutet d'être venu nous voir. Nous allons vous laisser, mais juste avant, une dernière question. Lorsque vous êtes arrivé à Belfort hier, votre film était en train d'être projeté et vous êtes resté à l'extérieur. Est-ce que vous avez l'habitude de revoir vos films en salle ou vous préférez...
En général, je les vois... mais en fait là l'expérience est différente parce que le film il fait deux heures et je l'ai vu quand même un certain nombre de fois, et j'étais en projection déjà hier ailleurs en France, et en fait là je peux plus le voir. Je peux plus voir mon film. Donc je le reverrai dans un an peut-être, voilà, il faut que j'aimerais bien laisser passer quelques mois voire une année pour le redécouvrir, voilà.
Mais c'est vrai, on se dit, pour un réalisateur, au final, il y a un rapport aux œuvres qui est assez particulier, parce que venir présenter son travail dans un festival, c'est un objet terminé, alors que déjà, vous êtes certainement dans d'autres projets à venir.
Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant, en tout cas au début, hein, quand un film vient d'être terminé, c'est de pouvoir le voir enfin dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que on le voit à la salle de montage sur un petit écran, on le voit parce qu'on est en train de travailler dessus. Après, il est jamais fini. Et le voir là concrètement dans une salle de projection avec un public, voilà, d'un coup, on a un autre rapport à l'image. Donc ça, c'est intéressant. Après, on le voit une fois, deux fois, trois fois peut-être. Mais dans mon cas, là, je sais que pour l'instant. Aujourd'hui, en tout cas, je regarde un petit peu au début, je reviens à la fin, mais voilà, je laisse le centre au public.
Je rebondis juste sur la question de Caroline. Vous avez d'autres projets, du coup ?
J'ai d'autres.
Le Tibet. Non.
Pas encore. Mais j'ai d'autres projets. Oui, j'ai d'autres projets. Mais j'aimerais revenir à des. En tout cas, dans un premier temps, à des. des choses plus simples, on va dire. En termes, là, ça a usé un peu tout le monde. C'était pas prévu que ça dure autant de temps. Il s'est passé beaucoup de temps et là, il y a encore maintenant la sortie salle qui va être fin janvier. Va demander encore quelques mois de travail. Donc, on en est encore. Ça n'arrête jamais en fait. Donc, il serait temps que ça. De pouvoir passer à autre chose, mais c'est pas possible dans l'immédiat. Et puis voilà, d'autres projets, et puis des projets aussi, voilà ce que je disais, des projets peut-être plus simples, et puis revenir aussi à ce que j'aime faire et ce que je faisais avant, c'est-à-dire des projets plus plastiques en fait. Voilà. Retrouver un équilibre entre les deux.
Très bien.
Je vous tiendrai au courant.
Merci. Merci Antoine Boutet.
Merci à vous.
Fluxfor, mécanisme velouté,
mixage fusionnel.